Salut et bienvenue à tous sur Archéociné, Archéociné, le podcast qui déterre les pépites du grand écran. Avec nous, il y a Blood. Comment ça va?
Salut à tous, impeccable.
Et alors, tu me dirais, tu me poserais même la question, qu'est-ce qu'Archéociné, hein?
C'est quoi Archéociné?
Eh oui, bah Archéociné, c'est un podcast qui vous fait découvrir les anciens films qui ont leur succès d'antan, les blockbusters, hein, à leur époque, mais sans raconter vraiment le film, mais plutôt autour du film, tout ce qu'on ne raconte pas, etc. Parce que on ne va pas raconter l'histoire parce que je ne veux pas spoiler, et que il y en a peut-être beaucoup qui ont vu le film, qui voudraient savoir qu'est-ce qui s'est passé autour de ce film-là, et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, eh ben, je leur laisse le découvrir, je suis anti-spoil. Voilà. Eh bien, on va commencer, hein? Qu'est-ce que t'en dis?
C'est parti.
Allez, petit extrait.
Donc, je ne dis rien.
Non, dis rien, tais-toi jusqu'à la fin. Allez, l'intro. Eh oui, on a tous reconnu le film, lequel est-ce, Blood?
C'est Vendredi 13.
Et oui, c'est vrai, en plus, c'est la date d'aujourd'hui. Et non, c'est Star Trek, le film, Star Trek The Motion Pictures, donc que beaucoup auront certainement reconnu. La BO est différente hein, du thème Star Trek de la série. Star Trek le film, c'est un film américain de science-fiction hein, réalisé par Robert Wise qui est sorti en 1979, en décembre plus exactement, et c'est pour ça que j'avais décidé de le faire pour l'épisode 14, puisque c'est l'anniversaire des 40 ans du film.
40 ans d'Archéociné.
Donc bah c'est le premier film qui est sorti sur grand écran adapté de l'univers Star Trek créé de la série télé du même nom qui elle a été diffusée à partir de 66 et c'est une adaptation cinématographique du troisième épisode de la seconde saison qui s'appelle le Corrigan de Changeling en version originale et ça a été appuyé par un budget de 35 millions de dollars. Et le film, en fait, est différent si on le compare avec l'épisode de la série. Le film est différent de l'épisode car le scénario est réécrit avec beaucoup de liberté. Et ce qui a donné aussi un film avec plus de profondeur. La scénaristique est plus aboutie, le visuel également. De l'épisode de la série originelle. C'est vrai que si on compare avec... La série, il y a peu d'effets.
Oui, puis c'est surtout qu'un épisode d'une série, ça dure quoi, 40 minutes.
Ouais, à peu près. Et puis bah sinon, on va faire un petit synopsis sans rentrer trop dans les détails. Vas-y, je te laisse nous dire le petit sino, Blood, en intro.
Alors donc, chose que je découvre, nous sommes en 2272. Une entité d'origine extraterrestre sans précédent se dirige vers la Terre en détruisant sur son passage. Et donc l'équipage de l'USS Enterprise est chargé de stopper ce nouvel ennemi. Alors que le capitaine Decker se prépare à diriger la mission, il est relevé de ses fonctions et remplacé par le fameux amiral Kirk, absent des commandes du vaisseau depuis 3 ans.
Alors, pour en dire plus un petit peu sur ce film au niveau de qui a quoi fait quoi. Ouais, qui on retrouve, enfin pas comme acteur mais autour du film hein, la réalisation on a dit tout à l'heure c'est Robert Wise hein, le scénario c'est Alan Dean Foster. avec l'aide de Harold Livingstone et Jane Rockenberry. Les dialogues, c'est Sean Halley. À la directeur de la photographie, on a Richard Klein. Et un peu plus tard, on a Charles Wheeler, mais ça, c'est pour les prises de vue additionnelles, parce que on le verra plus tard, il y a eu une ressortie, on va dire, du film en Blu-ray. Au costume, on a Robert Fletcher. À la musique, on a Jerry Goldsmith. Directeur des effets visuels, on a Douglas Trumbull. Et conseiller technique, attention, on a Isaac
Alors,
Asimov. Voilà, c'est donc le film dure 2h06 d'origine. Il y a eu une version director cuts, on en parlera un peu plus tard, elle qui dure 2h11. Et voilà, bon, en anglais et en klingon. Mais c'est sous-titré, hein.
Ah, parce qu'elle est vraiment sortie en klingon, ça se trouve, le film.
Mais non, mais il y a des passages en klingon.
Ah oui, mais tu fais tout en klingon. Tu
Franchement.
choisis.
Oh là 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 là, le boulet, le boulet. Alors, Blood, il y a peut-être une petite genèse à ce développement du film. Qu'est-ce que tu nous racontes là-dessus?
Alors, lorsque la série originale s'arrête en 1969, Paramount Pictures décide de lancer à la demande des fans un projet intitulé Star Trek Phase 2 pour la télévision. Cette nouvelle série devait réunir la même équipe d'acteurs à l'exception de Leonard Nimoy qui s'est juré de ne plus jamais porter les oreilles pointues de Monsieur Spock. En guise d'épisode pilote, le scénariste Harold Livingstone imagine l'histoire d'une sonde qui aurait disparu après son lancement, pardon, aurait été recueillie par une sorte de planète machine et serait devenue très puissante et très dangereuse. Pour compenser l'absence de Spock, l'équipage de l'Enterprise se voyait affublé d'un nouveau personnage, Xon. Un être 100% vulcain, Spock n'étant que vulcain par son père et humain par sa mère, qui ne dégage aucune émotion. Au fil des années, le projet passe du stade de série télévisée à celui de film à petit budget. En 1977, à la suite de l'énorme succès de La Guerre des Étoiles, Paramount ressortit le projet Star Trek Phase 2 et envisage finalement d'en faire une adaptation pour le grand écran. Harold Livingstone et Alan Dean Foster décident d'utiliser le concept de la sonde disparue. Celle-ci devient Viger et menace de détruire la Terre s'il n'obtient pas d'informations. Robert Wise, deux fois lauréat de l'Oscar du meilleur réalisateur, est choisi pour réaliser le film.
Donc voilà la naissance du film Star Trek. C'est vrai qu'à la base, ça serait resté qu'une série. Et donc, comme tu nous as dit, voilà la naissance de ce film-là qui serait resté quoi, série s'il n'y avait pas eu les films. Et en fait, ça a été réalisé, comme tu l'as abordé précédemment, par Robert Wise. Alors, qui est Robert Wise? Robert Wise, il est né en 1914, il est mort en 2005 à l'âge de 91 ans. C'est un réalisateur, producteur, metteur en scène et monteur américain. En 66 ans de carrière, il a 58 films à son actif. Il débute sa carrière cinématographique dans les années 30 comme monteur pour les studios RKO. Et il officie sur Quasimodo en 39, Mon épouse favorite en 40. Mais c'est en montant le Citizen Kane d'Orson Welles en 41 qu'il se fait véritablement remarquer. Et il obtient pour l'occasion une nomination à l'Oscar. Et après avoir à nouveau été monteur pour Welles sur La Splendeur des Ambersons, Robert Wise passe à la réalisation grâce à l'appui du producteur de films d'horreur Val Lefton. Et en 44, il met ainsi en scène La Malédiction des hommes-chats. Et c'est la suite de La Féline. Et de plus en plus influent au sein des studios RKO, Robert Wise se distingue en réalisant le western Ciel Rouge en 48 et surtout le film noir Nous avons gagné ce soir en 49. Dans les années 50, le cinéaste prouve sa capacité à aborder tous les genres avec une même aisance, de la science-fiction avec Le jour où la Terre s'arrêta en 51, au soap-opéra Mon grand en 53, en passant par un drame de facture plus classique qui est La Tour des Ambitions en 54. Très actif, il dirige un jeune Paul Newman dans Marqué par la haine en 56. Et il est nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur pour Je veux vivre ou revient au film noir avec Le coup de l'escalier. Et la consécration intervient au début des années 60 lorsque Robert Wise, avec West Side Story, porte à l'écran une des plus célèbres comédies musicales de l'époque, aidé cela par le chorégraphe Jérôme Robbins. Le long métrage, énorme succès public et critique, est couronné de 11 Oscars. Après s'être illustré dans le cinéma d'épouvante en signant La Maison du Diable, il effectue une nouvelle fois de prestigieux doublés Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur film en 65 avec La Mélodie du Bonheur, une nouvelle comédie musicale à succès. Il s'illustre également dans le film de guerre avec La Canonnière du Yangtze en 66. Et pour finir, dans les années 70, Robert Wise se fait plus discret, mais démontre toujours une étonnante capacité à se diversifier, signant tout à la fois le personnel Brève Rencontre à Paris en 73 et le film de science-fiction culte Star Trek en 79. Et en 89, il signe son ultime long métrage, la comédie musicale Rooftops. Voilà pour ce qui est de Robert Wise, de ce qu'il a fait un petit peu autour avant de réaliser Star Trek. Allez, on s'écoute le premier petit extrait.
Nous ne savons rien d'autre. Si ce n'est que cette nuée est maintenant à 53h04 de la Terre. L'Enterprise est le seul bâtiment spatial de la Fédération basé sur sa route. Nous supposons qu'il se trouve un vaisseau d'un type indéterminé au cœur de cette nuée. Nos ordres sont de l'intercepter, de l'étudier et d'envisager toute action jugée nécessaire et possible. Il nous reste à espérer qu'il se trouve une forme de vie à bord de ce vaisseau qui corresponde à la nôtre.
Voilà pour le premier petit extrait. Alors après, bah, il y a toute la troupe qui gravite autour de la réalisation de ce film-là. On va commencer par Alan Dean Foster. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, Blaude?
Alors, Alan Dean Foster, il est né en 1946, il a 73 ans donc. C'est un écrivain de science-fiction et un scénariste américain. En plus d'avoir écrit les novélisations des trois premiers Aliens, il est officieusement l'auteur de la novélisation de l'épisode 4 de la saga Star Wars et officiellement celle de l'épisode 7 publiée le 5 janvier 2016. Il a également participé au scénario de Star Trek le film, comme on a dit juste avant. On lui doit de nombreux romans dans différents genres, science-fiction, fantasy, policier, horreur et western. Il écrit aussi sous le pseudonyme de James Lawson.
Voilà. Et une novélisation, c'est en fait un bouquin qui est issu d'un script, d'un scénario. Contrairement à l'adaptation où c'est le film qui est adapté d'un roman. Voilà. Et puis on a qui aussi? On a Richard Klein. Richard Klein, vas-y, je te laisse poursuivre.
Alors, est un directeur de la photographie américain, né en 1926, il est mort en 2018 à l'âge de 92 ans. Il a participé à de nombreux films connus tels que Pour des laits hauts et courts en 68, Le Flingueur en 72.
Ouais, avec Charles Bronson.
Avec Charles Bronson, qui Pour des laits hauts et courts avec Clint Eastwood, bien sûr.
Ouais. Et le Flingueur, Charles Bronson et... Ah, le gars qui joue dans Supercopter.
Voilà, c'est pas Michael quelque chose.
Vincent.
Ah oui. Vincent.
Ça va me revenir. Attends, je googlise parce que là, j'ai un trou de mémoire. Je vais te dire ça tout de suite.
Vincent Michael quelque
non,
chose.
Non, c'est Jean-Michel Vincent, voilà, c'est ça.
Ah voilà.
Voilà. Allez, vas-y.
C'est ce qu'on a dit.
Je te laisse poursuivre en 73 avec.
Donc, la bataille de la planète des singes, bizarrement, on n'a pas parlé d'un truc comme ça, là, il n'y a pas longtemps.
Ouais, je crois bien, ouais. En 73 aussi, Soleil Vert.
En 74, Mister Majestic.
Ouais, toujours avec Charles Bronson.
En 1976, King Kong. En 1982, Injustice dans la ville 2. En 1986, Howard, une nouvelle race de héros. En 91, Double Impact, avec ouais, le fameux JCVD.
Et puis ensuite, au niveau de la musique, formidable musique, hein, j'adore la musique dans Star Trek. On a Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, lui, bah, il est né en 29, il est mort en 2004 à 75 ans. C'est un compositeur américain essentiellement connu pour ses musiques de films, mais il me semble qu'on en avait précédemment parlé dans des épisodes d'Archéociné.
Exact.
Et bien lui, Jerry Goldsmith, hein, ben il a étudié le piano dès l'âge de 10 ans, et puis il perfectionne son art de la composition musicale. Il a été à l'Université de Californie du Sud. Il a une carrière monumentale, hein, puisque ça s'étale sur plus de 50 ans. Il a fait plus de 300 œuvres, et il a fait des bandes originales de films super connus, hein, des grands classiques. Bon, La Planète des Singes, on en avait parlé précédemment, dans l'épisode juste avant. Et il a fait aussi la musique de Alien, L'Huitième Passager, Basic Instinct, Shine at All, Total Recall, La Malédiction, The Omen, qui lui fait d'ailleurs remporter l'Oscar en 77. Dans les années 90, il travaille sur La Momie, L'Homme sans Ombre, ou encore les Looney Tunes, en passant à l'action, sa dernière contribution. Et on le retrouve également dans la composition des BO, des Rambo, mais aussi de Papillon et de Patton. Voilà, après, il nous reste qui ? On a Douglas Trumbull, qu'est-ce que tu nous dis sur lui ?
Alors, c'est un réalisateur, producteur et scénariste né en 1942, donc il a 77 ans. Il est surtout connu pour être l'un des pionniers des effets spéciaux visuels dès la fin des années 60 avec le film de science-fiction 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça, je crois que c'est un épisode d'Archéociné.
Ouais, je l'avais fait. Donc, 2001, l'Odyssée de l'espace.
Il se retrouve également à participer dans les films Rencontre du Troisième Type et Blade Runner.
Ouais. Et puis, pour finir, bah, on a Isaac Asimov. Alors Isaac Asimov, lui, il est né en 1920, il est mort à l'âge de 72 ans en 92. C'est un écrivain américano-russe, il s'est fait naturaliser américain en 28. Et c'est un professeur de biochimie à l'université de Boston, et il est surtout connu pour ses œuvres de science-fiction et ses livres de vulgarisation scientifique. Et entre parenthèses, c'est grâce à lui que j'ai découvert l'ASF. C'est un de mes premiers auteurs de science-fiction, quand j'étais gamin, 8-10 ans, quoi. Et puis, bah, comme en fait, c'était un ami proche de Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, et ben, ça lui donna donc l'occasion d'être le conseiller technique du premier film de la saga. Voilà, maintenant, on va passer à la petite distrib des rôles. Alors pour les rôles, on verra après qui a joué dans Star Trek un peu plus tard. Mais pour la distrib des rôles, les acteurs de la série originale, ils reprennent leurs rôles respectifs avec un grand enthousiasme. Hein, et Jeffrey Katzenberg, producteur exécutif du film, parvient à convaincre Leonard Nimoy de reprendre son rôle de Spock. À cette équipe se joignent deux nouvelles recrues, l'actrice indienne Persis Kambhata, qui campe le lieutenant Lia, et Stephen Collins, celui du jeune et fougueux capitaine Decker, et David Gautreau, qui devait tenir le rôle de Xon dans le projet d'origine, est finalement engagé pour celui du commandant Branch, qui n'apparaît qu'au début du film. Le chef DiFalco qui remplace le lieutenant Lia au poste de navigateur est joué par Marcy Lafferty, alors épouse de William Shatner. Voilà, on va s'écouter un deuxième petit extrait.
Spock.
Capitaine, si vous permettez. Si je... Oh.
J'ai capté sans le vouloir vos communications avec l'état-major Starfleet, commandant. J'ai donc appris vos problèmes d'adaptation aux nouvelles installations. Je vous offre mes services en tant qu'attaché scientifique. Sans vouloir vous offenser, capitaine.
Si notre second n'y voit pas d'objection...
Aucune. Il est évident que M. Spock est parfaitement qualifié.
Monsieur Chekov, voulez-vous noter la remise en activité de M. Spock dans les rangs de Starfleet? Ceci comme attaché scientifique. Cette mesure sera effective à partir d'aujourd'hui.
Monsieur Spock.
Pour une surprise, c'est une surprise. Charmé de vous revoir.
Et oui, parce qu'on n'y croyait plus. Spock, bah, il arrive là...
Surtout vu le début du film.
En cours de ouais, en cours de l'histoire, mais c'est vrai qu'il est pas là depuis le début. On se dit, ça, c'est la grande surprise, quoi. Et ça fait plaisir à voir. Alors bah donc du coup, on va poursuivre un petit peu avec cette grosse distrib, hein, parce que c'est vrai que ça fait du monde. Il y a pas mal d'acteurs.
Ah, il y a plein de personnages. C'est ça qui est top.
Alors, à noter quand même que le au niveau des doublages, hein, je fais une petite parenthèse là-dessus. Parce qu'il y a la version cinéma qui est... Il y a eu un doublage qui a été fait en 1980. Ouais. Et puis, il y a une version Director Cuts qui est ressortie en 2000, ça a fait l'objet d'un nouveau doublage avec des nouveaux doubleurs. Donc, les voix sont différentes. La version que moi que j'ai, c'est la version des années 80. La Director Cuts, pour l'instant, je l'ai pas. Mais voilà. Donc, par exemple, William Shatner, il est doublé par Sadie Robot en 80 et par Bertrand Bollet en 2000. Bon, voilà. Allez, vas-y, je te laisse présenter qui se trouve dans le film.
William Shatner joue l'amiral capitaine James Tiberius Kirk. Nous avons aussi Leonard Nimoy, et donc le commandant Spock. DeForest Kelley, qui fait le docteur Leonard Bones McCoy. James Doohan, qui fait le commandant Montgomery Scotty Scott. George Takei, qui fait le lieutenant-commandant Icarus Wu. Walter Koenig, qui fait le lieutenant-commandant Pavel Chekhov. Michel Nichols est le lieutenant-commandant Yota Urma. Majel Maret, qui fait le docteur Christine Chappell. Et Persis Kambata, qui fait le lieutenant Ilia.
Ok. Bah, ça en fait du monde. Hein.
Et je n'ai pas fini, pardon les amis. Stephen Scully, qui fait capitaine Willard Wildecker. Gracie Whitney, qui fait le lieutenant-commandant James Strong. Et donc, comme tu disais juste avant, David Gautreau, qui fait le commandant Brock.
Ok. Et donc, pour poursuivre un peu plus en détail dans cette grosse distrib, on retrouve donc William Shatner. Hein, William Shatner, dit Bill Shatner, il est né lui en 31, il a 88 ans. Et ouais, toujours parmi nous, tu tiens bon, Tiberius. Et c'est un acteur, réalisateur, scénariste, chanteur, écrivain, producteur canadien. Ouais, parce qu'il est pas américain, hein, le père. Il a à son actif 89 films en 60 ans de carrière. Il a eu 9 récompenses, dont, entre autres, j'ai repris que celles qui concernaient Star Trek. En 83, le lauréat du prix du meilleur acteur lors des Saturn Awards pour Star Trek 2, La Colère de Khan, en 82. En 90.
En même temps, Saturn Award pour Star Wars, c'est un peu normal.
Saturn Award, qui je le répète, c'est les récompenses pour les films de science-fiction, pratiquement, uniquement. Il n'y a pas autre chose. Science-fiction, fantastique, etc. En 90, on a le lauréat du prix du pire réalisateur lors des Razzie Awards pour Star Trek V, l'ultime frontière en 89. Et toujours en 90, on a le lauréat du prix du pire acteur lors de la Razzie Award pour Star Trek V, l'ultime frontière en 89. Bon, les deux derniers prix, voilà quoi. William Shatner fait ses débuts à la télévision en tant que Rangers Bob dans Audi Boody en 54 et au cinéma dans Les Frères Karamazov. Il obtient aussi ses premiers succès au théâtre puis à la télévision dans des séries comme Alfred Hitchcock présente, La Quatrième Dimension, Au-delà du réel et Le Fugitif. Et bon, il est déjà présent dans quelques séries de science-fiction et il hérite du rôle du capitaine rebaptisé James T. Kirk. Et après Star Trek, l'acteur met longtemps à retrouver un rôle car on l'associe trop fortement à son personnage du capitaine Kirk. Bon, il faut dire que c'est un petit peu vrai, hein, même pour tous les autres persos. Hein. Et c'est après le tournage du premier film de cette série, donc Star Trek le film, hein, qu'il sera de retour. On le retrouve toujours à la télévision, notamment dans La Côte Sauvage et Hooker, deux séries. Et il a fait aussi du théâtre et il a tourné dans d'autres films. Et il est le héros des six premiers films issus de la série télévisée Star Trek, ainsi que du septième film Génération, qui fait la liaison entre les deux séries. Star Trek, série originale, et Star Trek Next Generation. Et le cinquième opus, donc Star Trek V, l'ultime frontière, est coécrit et réalisé par Shatner. C'est pour ça que le prix du pire réalisateur là lui est attribué. Voilà. Après, on trouve Leonard Nimoy. Vas-y, tu veux poursuivre?
Pourquoi pas? Avec Leonard Nimoy, donc qui est acteur, réalisateur, scénariste, photographe, producteur et chanteur américain, né en 1931 et mort en 2015 à l'âge de 84. 64 ans de carrière et 53 films. Après du théâtre, des cours d'art dramatique, il participe à quelques séries, La Quatrième Dimension, ça, Perry Mason, De la du réel. Avant de rejoindre Star Trek pour 3 saisons, de 66 à 69, avec le personnage de Monsieur Spock. Il joue aussi dans les saisons 4 et 5 de la série Impossible de 69 à 71, dans le rôle de Paris, lequel succédait à Roland Grant, rôle tenu par Martin Landau, dans l'équipe de Jim Hales. En 1973, il joue dans le sixième épisode de la deuxième saison de la série Columbo. Et que d'ailleurs, William Shatner aussi, il a été dans des Columbo.
Ouais, ton son commence à continuer à déconner. Ouais, et puis bon, après ces séries, il est retourné au théâtre, il présente des émissions de télévision, il écrit des bouquins de poésie, il devient réalisateur au cinéma, Star Trek 3 à la recherche de Spock, Star Trek 4 retour sur Terre, 3 hommes et un bébé, etc. Il joue dans les 6 premiers films issus de la série. Il fait des apparitions dans Star Trek La Nouvelle Génération. Le personnage de Spock est le seul à être retenu pour la série après le premier pilote de Star Trek, The Cage. Et The Cage qu'on a du mal à trouver d'ailleurs. Le tout premier épisode de la série originelle. Et en 2009, la sortie tant attendue du nouvel opus Star Trek du réalisateur J.J. Abrams fera des émus. En effet, on peut retrouver Leonard Nimoy dans son rôle original de Spock, mais cette fois venant du futur. Ouais, parce que là, il y a des sauts dans le futur, attention. Hein. On le verra à la fin, j'ai fait un petit récap. Voilà. Et c'est tout ce qu'on va dire un peu sur Leonard Nimoy. Là. Nimoy, pardon. Après, on a Dee Forest Kelly. Hein, c'est Jackson Dee Forest Kelly. C'est un acteur américain né en 1920 et mort à l'âge de 79 ans en 99. Il a 51 ans de carrière et 24 films à son actif. C'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Et Jackson Dee Forest Kelly est surtout connu pour ses rôles de méchant dans les séries télévisées. notamment dans des westerns comme le Virginien, avec justement, je te le donne dans le mille, avec Léonard Nimoy. Et la série originale Star Trek met fin à cette réputation avec le rôle du docteur Leonard Bones McCoy. Il participe également aux 6 premiers films de la saga Star Trek et est présent dans l'épisode pilote de la nouvelle série Star Trek Next Generation. Et pour le premier pilote de Star Trek The Cage, l'acteur Jackson DeForest Kelley fut un moment pressenti pour le rôle de Spock. Et en revanche, on lui refusa le rôle du docteur car jugé trop âgé. Il ne participera donc pas au second pilote où l'homme dépasse l'homme, mais apparaît dans le premier épisode Fausse Manœuvre sous les traits du docteur Leonard McCoy. Allez, on va s'écouter un petit troisième extrait.
Diagramme sur vidéo.
Diagramme en plan rapproché, monsieur.
Votre opinion, Monsieur Spock ?
Je suis pour la poursuite de l'opération.
Monsieur Decker ?
Évitons de prendre des risques, commandant. Nous sommes hors d'état de soutenir une nouvelle attaque.
Cette chose est à 20 heures de la Terre et nous ne savons jusqu'à présent rien d'elle.
C'est là où nous achoppons, commandant. Que va-t-elle faire ? Se mouvoir dans cette nuée actuellement est un défi non rentable.
Qu'entendez-vous par non rentable, juste ?
Je vous ai donné mon opinion, monsieur.
Et oui. Parce que là, il commence à découvrir un petit peu les bizarreries de Viger. Allez, on poursuit avec James Doohan. James Doohan, vas-y, je te laisse un petit peu poursuivre. Je reprendrai plus tard.
Alors, James Doohan est un acteur canadien, né en 1920 et mort en 2005 à l'âge de 85 ans. Il a eu 36 ans de carrière et 22
films. Pardon, Doohan, combien de films?
22 films.
Oui, 22 films. Non, parce que je te fais reprendre parce que le son.
C'est parce que j'avais lu.
Le son est pourri. Alors je te fais reprendre là où on n'entend pas bien.
36 ans de carrière et 22 films. James Doohan, vétéran du débarquement en tant que professeur d'art dramatique, avant de se lancer dans l'aventure du cinéma et de la télévision. Il joua des petits rôles dans Au-delà du réel, Un sorcier à piano, La quatrième dimension. Puis devint l'incontournable Scotty dans la série Star Trek. Il tourna également dans les 7 premiers films de la saga Star Trek et fit une apparition dans un épisode de Star Trek, La nouvelle génération. Dans la série originale de Star Trek, il choisit lui-même le nom de son personnage, Montgomery, son second prénom, Scott, le prénom de son grand-père paternel, décédé que Scotty décide, oh là là, il fut décidé que Scotty serait écossais car James Doohan savait parfaitement imiter cet accent et bien d'autres. Il assure d'ailleurs les voix originales de certaines créatures extraterrestres. Il apparaît lors du second pilote où l'homme dépasse l'homme.
Allez, on continue parce que là c'est pareil, hein, on a dit qu'il y avait pas mal d'acteurs donc c'est vrai que c'est un petit peu long, mais bon, voilà quoi. On a George Takei, un acteur américain d'origine japonaise, né en 37. Il a 82 ans. Il a 62 ans de carrière et 76 films à son actif. Il commence sa carrière à la télévision dans les séries comme Hawaii Police d'État, Mission Impossible ou La quatrième dimension notamment. Et il est recruté pour le second pilote de Star Trek, où l'homme dépasse l'homme. Il interprète déjà le rôle de Sulu, mais il est mathématicien. Et dès l'épisode suivant, Sulu est nommé timonier. Lors de la seconde saison de Star Trek, l'acteur délaisse la série pour tourner un film, Les Bérets Verts. S'il participe aux 6 premiers films issus de la série télé Star Trek, George Takei se tourne surtout vers la politique, notamment pour s'occuper des minorités sino-américaines. Voilà, on a après Walter Koenig, donc lui, il s'appelle, son nom entier, c'est Walter Marvin Koenig, c'est un acteur américain né en 36, il a 83 ans, 49 ans de carrière, 16 films, donc peu de films, mais bon. Il fait du théâtre à ses débuts, il a des petits rôles dans des séries, genre Alfred Hitchcock présente, etc. Et avant d'être engagé par Gene Roddenberry pour incarner Pavel Tchekhov dans Star Trek, et afin d'attirer des jeunes téléspectateurs, la production voulait en effet, pour la deuxième saison, un jeune personnage, l'enseigne Pavel Tchekhov, personnage servant au départ de bouche-trou aux absences de George Takei, et Tchekhov devint rapidement l'un des membres à part entière de l'équipage. Il participe ainsi aux 6 films issus de la série télé et fait une apparition dans le 7e Star Trek Generation. Ce rôle lui vaut un des prix Inkpot remis au Comic-Con de 82. Et pour finir, Nichelle Nichols, vas-y, je te laisse finir avec elle, Blaude.
Donc elle est née en 1932, elle a 87 ans, une actrice américaine. Elle a 51 ans de carrière et 23 films. Nichelle Nichols commence sa carrière d'actrice dans la série télévisée The Lieutenant, pour la première série de Roddenberry, créée en 64. Elle part ensuite en Grande-Bretagne pour commencer cette fois une carrière de chanteuse. Cela se retrouve dans Star Trek puisqu'elle interprète une chanson Beyond Antares. Elle devint Uhura dans la série pour le premier épisode de First Manor. Après les 3 saisons de la série originale, on la retrouve dans les premiers films. À côté de son métier d'actrice, elle a enregistré des albums, écrit des nouvelles de science-fiction et travaille pour la NASA, et des femmes et des minorités raciales.
Allez, on s'écoute un autre petit truc.
3, 9 degrés.
Vous êtes l'unité Kirk. Vous devez m'aider.
La température se stabilise à 3,7,6.
Je suis programmé par Witcher pour observer et enregistrer les différentes fonctions des composés de carbone constituant l'effectif de l'USS Enterprise.
Température toujours stabilisée à 3,7,65 degrés.
Jim, qu'est-ce qui se passe ?
Tricorder. Qui est Widger?
Widger est ce qui m'a programmé.
Est-ce que Widger est le nom du commandant du vaisseau étranger qui vous envoie?
Jim, cette femme est un robot.
Une sonde, commandant, sans aucun doute. Une combinaison senseur-transcripteur qui nous est envoyée par l'étranger pour enregistrer fidèlement tous nos faits et gestes.
Et ouais, là, on commence un peu plus à rentrer dans la découverte de qu'est-ce qui est cette entité et pourquoi elle se rapproche à vitesse grand V de la Terre.
Surtout pourquoi elle détruit en passage.
Aussi. Allez, on poursuit après ce petit extrait avec le tournage du film. Le tournage du film, lui, je vais y arriver. Le film se tourne dans les mêmes décors que la série, hein, dans les studios de la Paramount, et ceci ayant tout de même été modernisé pour éviter de reproduire les mêmes effets spéciaux kitsch avec jadis des petites maquettes. La production favorise la construction d'une nouvelle maquette de l'Enterprise dans un format plus grand, environ 2,70 m de long. C'est vrai que la motion tiver, le mien, il fait que 90 cm. Et plus sophistiqué et surtout possible à filmer sous des angles de vue les plus divers. Moi, je dis ça parce que j'ai un vaisseau aussi en Enterprise, hein, c'est pour ça.
Faut dire que tu t'amuses pas à le filmer aussi. Donc, ça suffit.
Ouais, c'est vrai que la 2,70 m de long, ça fait un morceau. Et les scènes sur Vulcain ont été tournées dans le parc national de Yellowstone, dans le Wyoming. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire après au niveau du montage. Le calendrier était très serré pour une sortie prévue en fin d'année, et l'équipe d'effets spéciaux, dirigée par Douglas Trumbull, s'approprie les rushs une fois les prises filmées, afin de rajouter sur les fonds bleus divers effets de lumière essentiellement par rotoscopie.
Mais qu'est-ce que la rotoscopie?
Ah mais, Blau, tu connais pas la rotoscopie?
Ah ben, non, c'est... je suis à boulet.
Eh ben, c'est une technique de cinéma qui consiste à relever image, à révéler image par image les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle pour en transcrire la forme et les actions dans un film d'animation. Et c'est un procédé qui permet de reproduire avec réalisme la dynamique des mouvements des sujets filmés. Voilà, donc c'est... Des fois, il y a des choses qui peuvent être dessinées ou peintes sur pellicule, par exemple. Et après, remises dans le film et incrustées après avec les vrais décors et les vrais acteurs, par exemple. On continue après. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Tiens, vas-y, je te laisse poursuivre avec la musique.
Alors, les producteurs font appel à Jerry Goldsmith, tout juste oscarisé pour sa participation sur le film de Richard Donner, La Malédiction. Lorsque Goldsmith présente une première version de la musique pour le film, Robert Wise n'est pas très emballé et demande alors un remaniement pour mieux correspondre à ses visions du navire. Il insiste également pour qu'il y ait un thème principal au film, un élément que le compositeur avait omis jusque-là. Pour son travail, Jerry Goldsmith est nommé à l'Oscar de la meilleure musique de film, ainsi qu'au Golden Globe de la meilleure musique de film, et au Saturn Award de la meilleure musique.
Alors comme je le disais tout au début, il y a eu une version après, plus tard, en 2000, une version Director's Cut, et Robert Wise, hein, il a contacté la Paramount, et il propose de retravailler le montage du film. Et une nouvelle génération d'informaticiens améliore des séquences par ordinateur, comme celle sur la planète Vulcain, hein, qui comporte désormais un ciel et des statues gigantesques, et celle de l'arrivée de la navette de Kirk à la Fédération des Planètes Unies, qui possède cette fois-ci des vues futuristes de la ville de San Francisco. Parce que c'est vrai que les décors et les animations, etc., c'était vraiment minimaliste, hein, c'était réduit.
Juste le vaisseau, puis...
Ouais.
Les autres dans la petite navette, là.
Et auparavant, le film avait connu un premier remontage d'une durée de 143 minutes pour sa première diffusion à la télévision en 83. Et donc, ça apparaît... c'est sur aucun support, hein, Blu-ray, etc. Et cette version contient également de nouveaux éléments importants, comme l'IA se servant de son pouvoir pour soulager la douleur de Tchekov après que celui-ci se soit brûlé le bras en recevant une décharge électrique, ou encore Spock pleurant pour l'avenir de V'ger. Et les génériques de début et de fin ont eux aussi été modifiés, hein, ils ont subi aussi des modifications, puisqu'ils contiennent un arrière-plan avec des étoiles défilant vers l'avant. Et quant aux inscriptions jadis blanches, hein, les inscriptions du générique, elles ont été colorisées en couleur dorée. Et comme je l'ai dit au début, hein, la version française a été entièrement redoublée. Allez, on va s'écouter un cinquième extrait.
Commandant. Witcher a besoin d'évoluer. Sa science a atteint maintenant les limites de cet univers et il veut poursuivre son évolution. Ce que Witcher réclame de son dieu, docteur, c'est une réponse à sa question. Y a-t-il quelque chose de plus?
Que voulez-vous qu'il y ait en dehors de l'univers, Spock?
D'autres dimensions, un degré de vie supérieur.
Dont l'existence ne peut être logiquement prouvée. C'est pourquoi Witcher est incapable de lui faire confiance aveuglément.
Ce qu'il faut aujourd'hui à Witcher pour évoluer, c'est ce que l'homme est seul à posséder. Notre capacité de dépasser la logique.
Et son union avec le Créateur pourrait lui apporter cela.
Vous voulez dire que cette machine veut s'unir physiquement à un humain?
C'est impossible. On va le savoir.
Ouais, ouais. C'est presque le dénouement. On va en savoir un peu plus sur V'ger. Et c'est vrai que Bones y reste toujours un petit peu sceptique quant au fait des... des phénomènes comme ça un peu surnaturels.
Il est un peu paumé, là, ouais.
Ouais, et on voit bien Spock qui reste vachement pragmatique, etc. Enfin, c'est du Star Trek, j'adore. Et pour continuer, on a le film a reçu une récompense, hein, un Saturn Awards en 80, meilleurs effets spéciaux pour Douglas Trumbull, John Dristra et Richard Urisich. Pour la petite histoire, après on a une petite histoire sur lieutenant Lia, la Persis Kambata. Elle fut très émue de devoir se raser la tête pour les besoins de son rôle. Et elle garda un moment ses cheveux coupés dans une boîte et demanda même à Jane Roddenberry de prendre une assurance au cas où ses cheveux ne repousseraient pas. Et puis sinon, la franchise Star Trek, hein, c'est une énorme franchise. Hein. On parle toujours de Star Wars, qui a de plus en plus de films, etc. Mais je crois que Star Trek avait commencé bien avant. Hein, parce que si on y regarde de plus près... Star Trek, c'est cette série, hein, la première série qu'on appelle aussi la série originale.
La première.
Ouais, elle a été diffusée de 66 à 69, et c'est là où tout à l'heure j'ai fait une allusion à tout ce qui est la ligne temporelle, etc.
Ah oui.
C'est que la première série se passe de 2265 à 2269. Après, on a la deuxième série, Star Trek, la nouvelle génération, hein, Next Generation, qui elle a été diffusée de 87 à 94. Elle couvre la période dans la timeline, hein, de 2364 à 2370. On a ensuite Star Trek Deep Space Nine, de 93 à 99, qui couvre la période 2369 à 2375.
Ouais, déjà, on voit que ça se chevauche un peu, là.
Ouais. On a Star Trek Voyager de 95 à 2001, qui couvre la période de 2371 à 2378. On a Enterprise, qui est devenu un peu plus tard, au cours de la troisième saison, Star Trek Enterprise. Diffusé entre 2001 et 2005, qui couvre la période 2151-2161.
Donc là, c'est encore même avant la première série. Ouais.
Tout à fait. C'est le prototype de l'Enterprise qu'on voit là-dedans. On a Star Trek Discovery, qui est diffusé, c'est une série en cours, hein, elle est diffusée depuis 2017. Et elle couvre la période 2256 à 2258, et on va avoir même une nouvelle série, Star Trek Picard, qui est centrée sur le personnage de Jean-Luc Picard, qui était le successeur du capitaine Kirk, et incarné donc par l'acteur Patrick Stewart, qui reprend son rôle. Et apparemment, l'action, ça se situera 20 ans après les événements du film Nemesis. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a une série d'animation. Star Trek, la série animée, qui faisait suite à la première série, hein, qui était diffusée de 73 à 74. Elle couvre la période de 2269 à 2270. Au cinéma, alors là aussi, c'est pareil, on a pas mal de films, hein. Alors au cinéma, fondé sur la série originale, on a donc le film qui fait l'objet de l'épisode de ce podcast, qui est Star Trek le film en 79, qui se passe en 2272. On a après Star Trek 2, la colère de Khan, en 82, qui se passe en 2285. On a Star Trek 3, la recherche de Spock, en 84. Qui se passe en 2285. On a Star Trek 4, Retour sur Terre, en 86, qui se passe en 2286. On a Star Trek 5, L'Ultime Frontière, en 89, qui se passe en 2287. Star Trek 6, Terre Inconnue, en 91, qui se passe en 2293. Voilà pour ce qui est des films fondés sur la série originale. Maintenant, les films fondés, le film fondé sur la série originale et Next Generation, c'est Star Trek Génération en 94, qui couvre la période 2293-2371. Ça, c'est vraiment le film qui fait le lien entre les deux séries. Et après, là, on part sur une franchise, cette fois-ci, basée sur Star Trek Next Generation, composée de trois films. Star Trek Premier Contact en 96, où l'action se situe en 2373. On a Star Trek Insurrection en 98, où l'action se passe en 2375. On a Star Trek Nemesis en 2002, où l'action se passe en 2379. Et pour finir, on a un univers Star Trek, c'est là où ils ont commencé à faire des reboots avec un univers parallèle. Star Trek en 2009, où les actions se passent, alors attention, en 2233, 2340, 2255, 2258 et 2387. On a Star Trek Into Darkness en 2013, dont l'action se déroule en 2259. On a Star Trek Sans Limite en 16, où l'action se passe en 2263. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'on dit toujours, les gens, ils ont l'impression qu'il y a beaucoup, de Star Wars, hein, Star Wars que j'adore, mais il y a également beaucoup, beaucoup de Star Trek, même un peu plus si on compte les séries. Et puis, après, pour aller un peu plus loin, parce que moi, j'aime bien ça, et puis après, on en finira là. Au niveau du vaisseau spatial Enterprise, il y en a eu plusieurs. Ils sont nommés différemment et la référence est écrite sur la coque, sur la soucoupe du vaisseau. Hein. Donc on a l'USS Enterprise NCC-1701, celui qu'on voit dans la série TV originelle. On a le 1701 Refit, qui est celui des films 1, 2, 3. On a le 1701A, qui est celui des films 4, 5, 6. On a le 1701B, qu'on voit au début du film Next Generation. On a le 1701C qu'on voit lui dans l'épisode 15 de la saison 3 de Next Generation. On a le 1701D qui lui est c'est celui-là qu'on voit dans Next Generation. Et je m'arrêterai là parce qu'après il y en a toute une tripotée, tous plus grands les uns que les autres parce qu'il y a plusieurs classes. Constellation, Foreigner, etc. machin. Mais on est ici pour traiter du film et pas traiter de l'univers de Star Trek même. Sinon, là je fais un épisode de podcast qui dure 3 heures.
Ou alors il faut même 30 épisodes.
Oh, au moins je diviserai le nombre d'épisodes. Eh bien, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire sur la petite sur le film. Maintenant toi t'as aimé, moyennement aimé, tu connaissais déjà?
J'ai bien aimé. Je crois que c'est la première fois que je le voyais, hein.
Ouais,
c'est pareil, j'ai toujours pas vu le 2 en fait. D'accord. J'ai vu qu'à partir du 3.
D'accord. Enfin,
j'ai vu 3, 4, 5, 6, attends, ça, ouais, 6, c'est tout.
Et alors,
donc, j'ai bien aimé, hein. Après, il y a des petits passages au début. Parfois, c'est un peu longuet, si on peut dire. Tu sais, quand ils sont dans le vaisseau, avant d'aller dans l'Enterprise, ça fait un grand détour. Ça fait des plans sur les acteurs. Après, on voit le vaisseau, on voit les acteurs qui regardent le vaisseau. On voit... Enfin, ça fait un peu long. Mais bon, comme il y a la super musique, ça passe bien, hein.
Ouais.
Ça fait un peu de suspense, si on peut dire ça comme ça. Mais bon. Il n'y a pas beaucoup de dialogue au début.
Oui, c'est vrai.
Sauf vraiment au début, oui, on voit les... Je sais pas s'il faut le dire, qu'on voit les...
Les Klingons.
Ouais.
Ouais.
Donc il y a du dialogue au début, mais bon, après, c'est après quand ils sont dans le vaisseau là, donc Kirk et puis.
C'est vrai, bah après ça, on retrouve un peu
l'ambiance des séries,
l'esprit l'esprit de la série originelle où des fois il y avait pas beaucoup d'action. Moi c'est vrai que quand ils ont fait le film, j'ai adoré. Je me suis dit c'est la licence qui reprend vie, etc. Mais mon petit regret, mais bon, ça c'est le premier film, hein. Mon petit regret, c'est que l'action se passe en majorité dans l'Enterprise, alors que c'est vrai.
Ils vont pas explorer une planète comme souvent ils faisaient dans la série.
Bah si, à la fin ils sont plus sur l'Enterprise, hein, puisque.
Oui, mais c'est vraiment à la fin là.
Ouais, ils sont en lien avec Voyager, mais c'est pas dès le départ. Voilà. Après,
les coups, on va sur une planète, et puis hop, ils passent tout l'épisode sur une planète, par exemple.
Ouais, après, les films suivants, ça change. Mais, c'est vrai que l'action se passe en majorité sur l'Enterprise. Chaque personnage est parti à la retraite, hein, parce que je le rappelle, une mission de l'Enterprise, c'est 5 ans. Et à la fin de la série, ils partent tous en, pas à la retraite, mais ils sont en perme, quoi.
Ouais.
Et du coup, ils vaquent chacun à leurs occupations. On voit que le capitaine Kirk est passé amiral, mais il revient vu que c'est un nouvel Enterprise. Avec une nouvelle conception, des nouveaux moteurs, des nouveaux ordinateurs, etc. Et lui, ça le démange tellement qu'il a envie d'être le nouveau commandant de ce nouveau vaisseau. Mais après, c'est vrai que les plans, les effets spéciaux et tout, c'est génial, quoi. C'est génial. Ouais, et même l'univers même de Star Trek est énormément riche. Donc ce film me plaît beaucoup, mais même si je le trouve parfois, comme tu l'as souligné, un petit peu de longueur et un peu de mou des fois.
Oui, c'est assez souvent en plus, hein, on voit l'acteur ou l'actrice qui regarde l'écran, par exemple, après on revoit ce qu'il regarde, on les revoit à nouveau, ça fait que ça.
Ouais, mais bon, ça tu l'avais déjà, on y était habitué avec les séries. Hein.
Ah oui. C'est bon parce qu'il y a un peu de, j'ai oublié le terme là, tu sais, quand ils se téléportent.
Ouais.
Quand ils font l'essai au début là.
Oui.
Puis que ça foire.
Oui.
Mais j'ai oublié le terme de quand ils se téléportent.
La téléportation?
Oui, il a pas dit un autre mot dans le film.
Énergie? Non.
On retrouve le mot quand Kirk monte dans l'ascenseur puis qu'il dit passerelle. On retrouve des trucs de la série, quoi.
Ah oui, c'est normal. Ah bah oui, c'est normal. Eh bien, si on n'a plus rien à rajouter là-dessus, on va se quitter sur ce nouveau épisode. Alors, pour aller un peu plus loin et compléter vos lectures d'Isaac Asimov, je vous recommande donc un ouvrage de science-fiction. C'est lui qui est à l'origine du cycle des robots et des trois lois de la robotique. Le cycle de robots se compose de plusieurs tomes. On a les robots, un défilé de robots, les cavernes d'acier, face au feu du soleil, les robots de l'aube, les robots de l'empire. Et les trois lois de la robotique sont les suivantes. La première loi, c'est un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. La deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Et enfin, la troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Voilà. Après, on a aussi le cycle de fondation. Donc la fondation aussi, c'est une grosse saga. Hein. On a donc dans ce cycle, on retrouve les romans Prélude à Fondation, Fondation en péril, L'aube de Fondation, Fondation et chaos, Le triomphe de Fondation, Fondation, Fondation et empire, Seconde Fondation, Fondation foudroyée, Terre et Fondation. Voilà. Et après, c'est Fondation, le cycle Fondation et le cycle de Roubaud sont intimement liés. Et voilà, ça fait de la super bonne science-fiction à lire, toujours d'actualité, pour ce qui est de la robotique et de l'intelligence artificielle, ainsi que Fondation avec des entités régissant des mégalopoles, voire des planètes, des vaisseaux, etc. Enfin, c'est assez riche comme univers. Voilà, donc foncez à lire Asimov, et pas étonnant qu'il ait été le conseiller de ce film Star Trek. Voilà, ça c'était pour ma petite note perso. Avant de se quitter, on va rappeler qu'il y a le blog où vous pouvez laisser des commentaires qui sont les bienvenus, parce que j'ai pas vraiment beaucoup de retours sur ce qu'on fait. Ça serait gentil de votre part d'en laisser, hein, ça fait toujours plaisir de lire les petits commentaires. Le blog qu'on peut retrouver à l'adresse archeociné.ddns.net, mais aussi vous pouvez nous retrouver sur Twitter, archeociné, sur YouTube. Alors, c'est pas du vidéo, hein, ce sera que de l'audio, mais sur YouTube, et puis aussi Spotify, Deezer et les plateformes de téléchargement de podcasts avec vos applications favorites. Ben voilà, écoute, on va se quitter là-dessus, et puis après on s'écoutera le petit générique de fin. À bientôt.
Salut et bon film.
Ciao.
Salut.